Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. Oui, les femmes sont bien présentes à l'écriture des premières partitions. Elles ont même tenu un rôle de compositrice de premier plan, particulièrement là où on les attend le moins, là où aujourd'hui elles sont réprimées, bafouées, renvoyées dans un Moyen-Âge qui n'a jamais existé, puisque le vrai Moyen-Âge était beaucoup plus clément envers elles que les temps modernes. Je veux parler de l'Orient, bien sûr, et des débuts de l'Islam, où les femmes avaient un rôle très important, où elles jouissaient d'une éducation totale et sans faille, dans laquelle l'art tenait la place belle, mais également la philosophie et les lettres. Ces femmes au pouvoir magique fascinaient les hommes, et avec le temps, ceux-ci vont les confiner de plus en plus. Pourquoi ? Eh, parce qu'ils ont peur, bien sûr. Eh bien, nous, dans cette émission, même pas peur des sirènes. Au contraire, on adore, et on se jette avec délice dans les flots, entraînés par leur chant magique. Allez, c'est parti, on plonge.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Camille qui nous chantait Fontaine de lait tirée de son nouvel album. Écoutons ceci. Ça date du 8e siècle, et pourtant il y a quelque chose de très moderne dans cette musique. Elle semble proche de nous, bien plus proche que certains chants grégoriens écrits pourtant 4 siècles plus tard, ce qui résonne à travers les haut-parleurs planqués dans les voûtes des cloîtres des abbayes que l'on visite le dimanche à l'heure de la sieste.
On va vérifier ce que vous dites, André. Voici donc un chant grégorien. Bon bah, maintenant on va écouter quelque chose d'un peu plus récent, un morceau de 2008, et en français s'il vous plaît, il s'agit de « Jésus, me voici devant toi » de Jean-Claude Giannada.
Jésus, me voici devant toi.
Bonjour Jésus, oui. On va peut-être arrêter. Non, vous voulez écouter Ouais, c'était pas possible. Maintenant, enfin, écoutons Sainte Cassienne de Constantinople avec Hypertinton et les nonnes. Il n'y a pas pas à tortiller, ça, c'est bon à entendre.
C'est sûr que c'est bon à entendre, Ilsa. Mais alors pourquoi ce chant du 8e siècle sonne-t-il plus moderne? Parce que tout d'abord, c'est une voix de femme qui accomplit ses mélismes, ses vocalises, ses variations libres autour d'une basse. Une voix de femme qui chante une mélodie composée par une femme cassienne de Constantinople. Et soudain, on comprend ce que dit Pascal Quignard dans son livre « La leçon de musique » quand il tente de répondre à la question « Pourquoi y a-t-il moins de femmes compositrices que d'hommes ?»
Pour les auditeurs qui auraient raté les routes de la musique de la semaine passée, Pascal Quignard vous fait un résumé de sa pensée.
La voix des garçons est cassée en deux et ne peut pas l'aller-retour que permet plus ou moins la voix féminine. Il y a comme ça deux voix, il faut réparer ça. Composer avec une voix perdue, essayer de rétablir une sorte de territoire sonore qui ne mue pas, qui soit immuable. Et ça, c'est les compositeurs qui composent avec cette voix perdue.
Kevin, 12 ans et demi, témoigne et appuie les propos de Pascal Quignard.
Il n'y a pas très longtemps de cela, ma voix a changé. Je suis passé de voix aiguë à voix grave. Ce qui a été un choc pour moi, comme pour mes proches. Le changement, il s'est pas fait du jour au lendemain. Bah non, sinon ce serait trop simple. Il a fallu que ça dure un mois.
Et c'est un drame qui se joue pour l'adolescent en formation.
Regarde ma voix, elle est aiguë, mais toi, ta voix, elle est grave.
Morale de cette histoire.
Aux femmes, la voix est fidèle, aux hommes, la voix est infidèle.
Et donc, quelle conclusion en tire Pascal Quignard ?
Il émet l'hypothèse que l'homme compose pour retrouver la voix qu'il a perdue à la mue, alors que la femme, gardant sa voix d'ange toute sa vie, n'a pas besoin de composer, mais juste de chanter et de jouir sans fin de sa voix qui l'amène vers l'extase. Et c'est précisément de ça qu'il s'agit. D'une extase. Le chant de Cassienne de Constantinople n'a pas l'air d'avoir été composé, tant il semble couler naturellement. On a l'impression que c'est un flot qui part de sa gorge et envahit l'espace pour nous reconnecter avec le tout, rendant à l'air qui nous entoure sa qualité de fluide sonore, transformant notre environnement immédiat en un champ magnétique dans lequel nous vibrons à l'unisson, portés par la voix sublime qui chante ses hymnes. La modernité vient de la liberté mélodique, de la pureté et de la hauteur de la voix féminine que l'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des chants religieux, car plus tard, les femmes seront exclues de la liturgie catholique. Qui était Cassienne de Constantinople et qu'est-ce qui la pousse à composer ?
That's not specifically asked. You gotta tell them like Jesus. It's all for the kingdom of God, in which we're just humble subjects, regardless of features, various different conjurings of creatures. And all of us to that life live the leaders. Love the eloquence of a concept perceived, preceded only by a concept conceived. Love the eloquence of a concept perceived, preceded only by a concept conceived. We're pulling from the darkness of the nether. Girl, I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving.
Hold. the stream of thought trickling through the matter from within it coming out. Let the silence speak, hear and follow the route. Tap in and let the pen and paper take the journey without you. All is everything when walking through this track with a style. Glimpses of the moment floating, sitting, catch it a while. Expanding, growing, knowing when you're grasping the now. Focus not on if I'm going slower, faster than thou. Entrapped in the powerful capsule of actual sound. After the sound, I find you drastically chase after the vows. Capture profoundly, accurately while he's handing it down. Standing astounded as I see the questions, answers leap out. Peep out a moment, bring you back to what I'm rapping about. Peep out a green upon the grass, will screen it naturally now. Encompassing everything, dwelling in it that it surrounds. Elusive as the wind, but never really absent somehow. Cause we're
pulling from the darkness of the netherworld, girl. I see ya, believe ya. In your interpretation of what I'm breathing, believing. And trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness. Cause I know you're there till I'm leaving. Pulling from the darkness of the netherworld, girl. I see ya, believe ya. In your interpretation of what I'm breathing, believing. And trying to manifest in this crazy mess.
Boom Cello, le groupe du violoncelliste Vincent Segal et du batteur Cyril Atef, qui nous chantait Beautiful You.
Les routes de la musique, André Manoukian, sur France Inter.
Cassienne de Constantinople, née en 805 dans une riche famille de Constantinople. Elle est si belle qu'elle gagne le concours de beauté organisé par la mère de l'empereur pour trouver une prétendante à son fils. Oui, le reality show « Qui veut épouser mon fils » est né à Constantinople au 8e siècle après Jésus-Christ. Le jeune empereur Théophile, en la voyant, flippe littéralement devant tant de beauté. Il ne peut s'empêcher de penser à Ève, la grande tentatrice de la Bible, et au péché originel. Alors il lui dit « Ek gynaikos tacheiro », ce qui veut dire en grec « de la femme, tu as le pire ». À quoi Cassienne, sacrilège suprême, ose répondre, pensant, elle, à la Vierge Marie plutôt qu'à Ève, « Kai ek gynaikos tacheiros », ce qui veut dire et de la femme, j'ai le meilleur. Le jeune empereur panique cette fois-ci. Si en plus de sa beauté, elle est intelligente et qu'elle a de la répartie, c'est pas possible, c'est trop pour lui. Il bat en touche et il va plutôt choisir sa sœur Théodora, qu'il prendra pour épouse. Ça tombe bien. Cassienne a un autre plan, celui d'ouvrir une école de femmes. Mais à l'époque, ça passe par un couvent.
Se libérer dans un couvent ? Drôle d'idée.
Cassia a donc composé au couvent. Les couvents étaient des lieux de relative liberté pour les femmes. Là, elles n'étaient soumises ni à un père, ni à un frère, ni à un mari.
Pour se libérer des hommes, Cassienne, alias Cassia, se réfugie dans les bras de Dieu.
Ave Maria, grazia plena, Dominus
tecum. Au XIe et XIIe siècle, beaucoup de couvents étaient des lieux de culture importants. Leur activité majeure consistait à chanter la musique liturgique. 8 offices plus une messe par jour donnaient beaucoup à chanter, 2h30 par jour, et l'éducation des novices se concentrait sur l'apprentissage de la lecture et du chant.
Tiens, ça c'est une idée à proposer à notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Concentrer les programmes sur la lecture et le chant, mettre 2 heures de chant par jour et qui ne soient pas des chants liturgiques, bien sûr.
Mais oui, quelle bonne idée. Comme ça, il y aura plein de Cassiennes, de compositrices et de compositeurs. Et le monde peut-être se porterait mieux. Revenons à Cassienne. Elle fonde son monastère à l'ouest de Constantinople. Elle en devient l'abbesse. Et là, voilà qui se met à composer des hymnes plus sublimes les uns que les autres. Elle va devenir le premier compositeur du Moyen-Âge dont les partitions ont été conservées et qui peuvent être interprétées par des musiciens modernes, laissant une cinquantaine d'hymnes, dont 23 sont encore chantés dans la liturgie de l'Église orthodoxe. On a retrouvé d'elle aussi 789 pièces non liturgiques, autrement dit des chansons, dont certaines sont carrément engagées. Par exemple, ce vers qu'elle aimait chanter, « Je hais le riche qui se plaint comme s'il était pauvre ». De même, son gourou tube, qui porte son nom, l'hymne de Cassienne, est inspiré d'un épisode de la Bible dans lequel Jésus, invité chez un pharisien, voit survenir une pécheresse. Devant l'étonnement de tous, il lui pardonne ses péchés, parce qu'elle témoigne d'un grand amour et d'un vrai repentir.
Voici donc l'hymne en question, le tube de l'été 805 après JC. Malheur, malheur à moi, quelle nuit sur nous tombe. Nuit obscure et sans lune où règne la folie. Ô toi qui fais pleuvoir les nuées sur les plaines, si ta miséricorde est bien surabondante, ô sauveur, mon sauveur, n'oublie pas ta servante.
Cet hymne est toujours chanté dans les églises, en Grèce et en Russie, à Pâques. Tout ça est bien joli, mais on a une histoire d'amour sur les bras. Oui, l'empereur Théophile est toujours amoureux de Cassienne. Alors de temps en temps, il lui rend visite en son couvent. Mais elle refuse toujours la rencontre. Chaque fois qu'il arrive, elle se cache. Alors il demande à voir son travail. On lui apporte ses hymnes. Un jour, il rajoute deux vers à la fin d'un de ses poèmes. Une fois qu'il est parti, elle lit ses vers et elle en rajoute deux autres. Ainsi va s'écrire une des premières et plus belles pages de la musique occidentale dont l'auteur est une femme amoureuse. Une chose est sûre, l'extase religieuse et le dépit amoureux sont deux sources d'inspiration garanties. Rien de tel que de se faire larguer pour écrire un chant sublime.
Salam.
C'était Redima et le professeur Stefanov et les sublimes voix bulgares de l'ensemble Pierine qui nous chantait Pongi. Malgré toutes les entraves que leur ont posées les hommes, les femmes se sont emparées de la musique par ses deux bouts, du côté de la spiritualité et du côté du charme. La maman et la putain, la vierge et la tentatrice, Marie et Ève, voilà les deux natures dictées par les sociétés occidentales entre lesquelles les musiciennes se débattent. Mais ce sont aussi les deux fonctions opposées de la musique, finalement. L'élévation spirituelle d'un côté et l'invitation au plaisir de l'autre. La méditation solitaire et l'ivresse collective. Apollon versus Dionysos. Et au fond, ce sont ces deux pôles qui vont créer la tension nécessaire à l'inspiration musicale. Dans l'islam des origines, les choses sont beaucoup plus claires. Les femmes tenaient salon, elles étaient très influentes dans l'Arabie, érudites et écoutées. C'est grâce à sa femme Khadija, une très riche veuve mécoise, que Mahomet, le prophète, va pouvoir asseoir et imposer sa nouvelle religion. Plus tard, bien plus tard, des tristes sires vont tenter de créer des controverses soumettant à interprétation des passages du Coran où le prophète, confronté à la musique, est tantôt charmé. D'autres fois, il se bouche les oreilles devant le son assourdissant des trompettes. Quand les défenseurs de la musique arguent du fait que Dieu insuffle son âme à Adam pendant qu'un ange chante. Si la musique finit par avoir mauvaise presse chez les religieux, c'est qu'elle était l'apanage de musiciennes savantes pratiquant l'art raffiné de la poésie et du chant, les Kaïna. Le mot Kaïna dérive du verbe arabe takayana, qui signifie se faire une beauté, se pomponner. Les Kaïna étaient des esclaves éduqués pour offrir les plaisirs sophistiqués de la poésie, du chant, de la danse. Elles officiaient dans des cabarets où le vin coulait à flot ou bien à la cour des califes qui les entretenaient jalousement.
Et c'est sous le statut d'esclave que des femmes réussissent à prendre le pouvoir. Non mais dans quel monde vit-on ?
Elles ont eu un rôle historique majeur. C'est elles qui sont au fondement, justement, de la création, de la musique, de la chanson, du rapport entre musique, chant, et qui jouent exactement le rôle de la contre-épouse.
Les Kaïna n'offrent pas que leur corps, elles offrent surtout leur savoir.
Il y avait une école à Bagdad où on formait ces femmes qu'on vendait après à prix d'or.
Des écoles de formation d'esclaves pour le lit, pour la compagnie, et conformés non seulement aux arts, donc à la musique, à la poésie, au chant, mais conformés aussi, je dirais, spirituellement, et puis aussi linguistique, elle parlait plusieurs langues.
Au marché aux esclaves, un prince cherche une femme qui connaît la poésie, le théorème de Pythagore, la position 69, la philosophie de Deleuze, et qui sait parler plusieurs langues, dont celle des plaisirs charnels.
C'est une sorte de nécessité pour le prince d'être entouré de bel esprit, et les bels esprits, ça comprend aussi les femmes. Et évidemment, en général, ce ne sont pas les épouses, parce que les épouses ne sont pas vraiment éduquées à cette époque-là.
Ainsi, les Kaïna ont une place importante, mais ne l'oublions pas, elles n'ont pas pu l'oublier, ce sont des esclaves.
Donc au sein du harem, effectivement, ces femmes sont éduquées et ensuite vendues.
À Séville, au 8e siècle, il y avait un marché de vente de Kaïna où les plus merveilleuses coûtaient plusieurs milliers de dinars, une fortune. La Kaïna était vendue avec son répertoire et plus celui-ci était vaste et plus elle coûtait cher. Comme je l'ai dit plus haut, au début de l'islam, les femmes, loin d'être recluses, tenaient un rôle important dans la société. Celles qui tenaient salon voyaient s'affronter des musiciens, des poètes, des érudits. On rapporte même qu'un jour, une Kaïna reprit une faute de rime exécutée par un savant. L'alcool, le sexe et l'inspiration artistique se retrouvent tout au long de l'histoire des chanteuses et danseuses du monde arabo-musulman. La Kaïna, femme fantasme et érudite, est souvent représentée offrant ses charmes à ses auditeurs et leur servant du vin ou toute autre boisson fermentée interdite. En 776, Al-Gaïz, un moraliste, prend pour cible principale la Kaïna, musicienne et chanteuse érudite qui, par sa libre présence au milieu des hommes, fait courir de graves dangers à l'équilibre du croyant.
Of the Hollywood sign, yeah. In these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us. take control and I was like, take off, take off, take off all your clothes, take off, take off.
La grande pécheresse Lana Del Rey qui nous chantait Lust for Life. C'est un vrai boulot de séduire. En latin, seducere signifie à l'origine amener à part, à l'écart. Séduire revient à écarter quelqu'un de son chemin comme une tentative de détournement. C'est au début du XIIe siècle que la définition du verbe séduire se précise et désigne l'acte d'entraîner une personne à commettre des fautes. Peu à peu, le sens prend une connotation de plus en plus péjorative, en lien avec les moyens utilisés pour plaire. L'acte de séduire semble supposer un plan malhonnête qui est suspect, aussi bien aux yeux des théologiens qu'à ceux de la société. La caïna, littéralement la femme qui se pomponne, la séductrice, devait suivre une formation stricte auprès d'illustres musiciens. Quant aux autres sciences, elle les étudiait avec les savants concernés, y compris les matières religieuses. Étant formée dès son plus jeune âge pour séduire, la caïna use de ses connaissances pour mieux transgresser les normes. Cette experte en l'art de la séduction est ainsi souvent présentée comme étant la femme de tout le monde qui entretient plusieurs amants à la fois. Elle est une femme hors la loi, une anti-épouse, une intruse par excellence. En un mot, elle est le mal magnifique et le plaisir funeste. Même Al-Ghazi, ce moraliste qui est d'une certaine manière le plus grand défenseur des caïnas, pense que si le diable ne disposait ni d'autres ruses pour tuer, ni d'autres emblèmes, ni d'autres charmes pour séduire, les caïnas lui suffiraient certainement. À Bagdad, au temps de la splendeur de cette ville, je rappelle qu'au 8e siècle, Bagdad compte 1 million d'habitants, quand Rome en compte 30 000 et Paris 5 000 habitants. À Bagdad, les caïnas sont des stars. Les femmes esclaves de Bagdad offrent une combinaison de plaisirs inouïs, sensuels et savants. Leur statut est paradoxal. Elles sont esclaves, mais ce sont elles qui mènent le bal. Ce sont elles qui choisissent leur victime, sur laquelle elles vont déployer leur charme jusqu'à ce que l'élu tombe dans leur filet, ensorcelé et devenu esclave de l'esclave. Souvent, les hommes de la bonne société finissent par les épouser, les préférant aux femmes libres, puisqu'ils ont eu les loisirs de les connaître dans tout leur champ de compétences, contrairement à leurs femmes qu'ils découvrent le jour de leur mariage.
Voici maintenant une petite leçon sur l'art de la séduction.
La poudre, le rouge, le bleu, la poudre à joues, le rouge à lèvres, le bleu. La bouche petite et mesquine deviendra charnue et sensuelle.
Françoise Hardy arrive et nous donne ses conseils imparables pour séduire.
Françoise Hardy, qu'est-ce que vous mettez sur les lèvres, là ?
De l'anticerne. C'est parce que j'ai les lèvres très foncées, j'aime pas ça, c'est pas joli. Alors je mets quelque chose pour les éclaircir.
Mais voyons, Françoise, la beauté ne fait pas tout.
Il existe des armes nombreuses. Et nous pourrions dire aux femmes, pour les encourager avant toute chose, qu'il est une arme à qui elles prêtent absolument toutes les forces et qui n'existe pas. C'est une arme mythique, c'est la jeunesse, la beauté. Ça, c'est une chose qui n'est pas forcément nécessaire. Il serait évidemment exagéré de dire que quand on est laide, bête et pauvre, on va réussir plus vite que les autres, mais ça n'est pas nécessaire.
La Kaina, après s'être pomponnée, s'habille donc de toutes ses connaissances philosophiques, intellectuelles, poétiques et musicales. Monsieur notre nouveau président de la République est tout à fait d'accord avec ça. Pour séduire les femmes, la France et puis le monde, lui, que fait-il ?
Peut-être un petit Baudelaire. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux.
Emmanuel Macron commence par une citation de Baudelaire, puis quand la cible est atteinte, il l'achève par une citation de René Char.
« Je vous aime farouchement, mes amis. »
Et la séduction est jouée. Une dernière question pour Emmanuel Macron.
« Bonjour monsieur Macron, j'ai un peu craqué sur ma prof de droit pénal. Est-ce que vous auriez un conseil ?»«
J'ai un peu craqué sur ma prof de droit pénal. » D'abord, il faut savoir si c'est réciproque. Si c'est le cas, allez-y, pas de tabou.
Madonna a bien écouté tous ses conseils. Elle chante maintenant « Like a Virgin ».
Bah alors, pas tout compris alors.
Yeah.
France Inter. Les routes de la musique. André Manoukian.
Au XIXe siècle, quand les premiers touristes occidentaux vont en Égypte, ils découvrent ébahis un monde d'une sensualité rare et un personnage qui va inspirer et nourrir les fantasmes des peintres orientalistes, l'Almé. En effet, la Kaïna qui a été combattue par les moralistes et les intégristes de tous bords va recevoir l'interdiction de se produire devant les hommes. Le problème de la séduction est donc réglé. Cependant, que faire de tous ces arts appris auprès de musiciens, de philosophes, de savants, que ces femmes instruites et expertes possèdent? Eh bien, puisqu'elles ne peuvent plus jouer devant les hommes, elles vont jouer devant les femmes. Les femmes des riches seigneurs s'emmerdent copieusement dans les harems, désormais pour leur plus grand plaisir, des danseuses, chanteuses et musiciennes de grande qualité vont les instruire et les divertir. On appelle ces initiatrices des almées, du mot arabe alim, qui signifie savant et qui donne au pluriel les oulémas. Oui, les docteurs de la foi ont leur équivalent féminin qui dispense de l'art. Les almées ne se produisaient à visage découvert que devant d'autres femmes. Le maître de maison et ses invités les écoutaient depuis une pièce voisine ou depuis la cour de la maison. Les Almées jouissaient en Égypte d'un rang élevé, dû à leur origine antique. Certains historiens voient en elles les descendantes des prêtresses d'Isis. Elles connaissent une grande variété de récits historiques ou héroïques. Elles s'instruisent les unes les autres, elles perpétuent les formes antiques et classiques de la poésie, de la musique et du chant arabe. Pour devenir une almée, une jeune fille doit avoir une belle voix, connaître parfaitement les règles de sa langue, maîtriser la pratique de divers instruments et être capable d'improviser des chants adaptés aux occasions où elle est appelée. Les almées ont aussi pour fonction d'enseigner aux femmes des seigneurs les bonnes manières, l'art de se parer et de fabriquer des produits cosmétiques. Elles les initient à la danse, à la musique et au chant. Elles leur apprennent aussi le tissage et la broderie. De nombreux almées exerçaient en outre les professions de guérisseuse et de sage-femme. Elles savaient préparer les onguents, cataplasmes et potions aux effets si prodigieux qu'il leur valait souvent une réputation de magicienne.
Et tous les Occidentaux de passage en Égypte voulaient à tout prix rencontrer ces magiciennes, les Almées.
Quand les armées du général Bonaparte sont venues en Égypte, tous ces soldats connaissaient l'existence d'Almées et ils voulaient voir les Almées. Seulement, les Égyptiens ont eu peur de ces hordes qui se déchaînaient au Caire. Ils ont caché les Almées, ils les ont remplacées par des femmes de bas étage, comme ils les appelaient, des danseuses de bas étage, qui étaient tout simplement des courtisanes et qu'on appelait des rawazi. Les voyageurs qui ensuite sont venus en Égypte, croyant découvrir les Almées, en fait partaient sur une fausse illusion, puisqu'on leur soumettait des rawazi qui étaient tout simplement des prostituées.
Les magiciennes almées sont cachées et protégées comme un trésor.
Ça n'a pas empêché les compositeurs de rêver des almées. Berlioz a écrit un ballet d'almées. A-t-il entendu de la musique des almées? Je ne crois pas, mais il n'empêche que ce ballet est basé sur une mesure à 6 temps et le 6 temps était aussi la mesure que pouvaient danser toutes les almées des salons de la bourgeoisie caïrote.
Debussy, Nerval, Flaubert, Zola, Berlioz écrivent et composent sur les almées et sur leur danse.
Elle se tient droite, mais chose étrange, les trois parties de son corps, la tête, la poitrine et les flancs, ne se mettent en branle que successivement et séparément. C'est d'abord la tête qui bouge, horizontalement, et automatiquement de droite à gauche et de gauche à droite, comme la tête d'un serpent qui se réveille. Ensuite, les seins s'animent du même mouvement vibratoire sans que le reste du corps y participe. Enfin, les flancs commencent à s'agiter pour eux-mêmes. Alors, c'est une innommable et savante variété de trépidations et de mouvements circulaires des hanches et des reins auxquels la tête de la danseuse assiste dans une immobilité glaciale.
Et pendant que la musique s'arrête et que les seins des danseuses arrêtent de trépider, les fantasmes, eux, courent toujours.
Je vois pas pourquoi vous dites ça, Elsa. En tout cas, ces artistes égyptiennes ont fourni une source inépuisable d'inspiration à de nombreux peintres orientalistes qui ont sans doute plus rêvé qu'observé leur modèle. En effet, les Almés ne se produisaient ni dans la rue, ni devant les étrangers et n'avaient pas grand-chose à voir avec les fantasmes européens qui les représentaient nus comme des odalisques se déhanchant de manière lascive devant les hommes. Elles étaient de vrais artistes à l'érudition aussi riche que leur art. De vraies descendantes des prêtresses d'Isis, mais ça, c'est pour la prochaine fois car nous retournons en Égypte bientôt.
Put a spell on you, 'cause you're mine. La 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 la. You better stop the things you do. Because you're
La grande Almée, Natacha Atlas, qui chantait « I put a spell on you ».
Les routes de la musique, André Manoukian, sur France Inter.
André, le chant de l'Almée, ça ressemblait à quoi ?
Le chant de l'Almée, c'est un chant qui vient d'Orient. Et la gamme orientale, c'est cette fameuse gamme avec la seconde diminuée, qui joue à la fois du sentiment trouble du majeur, la tierce majeure, et de la seconde diminuée, où on exprime à la fois la gaieté et la tristesse, où on se réjouit un peu au fond d'être triste. On a déjà vu ça un petit peu autrefois. Mais qu'est-ce qui caractérise le chant en Orient ? Une base et des variations. Une base, c'est quoi ? C'est souvent une note continue, une sorte de... L'Occident peut appeler ça... un bourdon, c'est-à-dire une basse. Il y a carrément certains instruments qui ont cette note qui résonne sans cesse, autour de laquelle on va naviguer. Et cette ligne, finalement, quand on va encore plus loin que le Moyen-Orient, quand on va jusqu'à l'Inde, la technique des chanteurs hindous, c'est d'abord de vous poser une question. Quelle est ta note ? Alors quand on pose ça à un chanteur, il comprend pas. Il dit, bah, ma note la plus basse, c'est celle-ci, on va dire. Do. Et puis ma note la plus aiguë, c'est celle-ci. Non, non, répète le prof de chant indien, quelle est ta note ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que tu trouves ta note. La note qui va t'exprimer le mieux, celle qui va faire résonner ton corps et celle qui va te définir. Et une fois que tu l'as trouvée, cette note, admettons que ce soit celle-ci, tu la tends sans arrêt, comme un fil. Hein, et tu la tiens. Alors moi, avec ma voix de fausset, j'avais un petit peu de mal. Mais ça veut dire quoi, tenir une note? Ça veut dire que tu la chantes sans arrêt. Et de temps en temps, tu la tends comme un fil. Et tu vas faire des petits nœuds. Ces petits nœuds, ça fait... Voilà, là, j'ai fait un tout petit nœud autour du dos. Je tourne autour. Et puis, là, je suis très près. Hein, je suis... autour du dos, un demi-ton au-dessus et un demi-ton en dessous. Et j'ai plein de possibilités juste avec ces deux notes. Et puis tout d'un coup, je vais élargir un petit peu le nœud, le champ. Mais je reviens, c'est ma base. Celle-ci, je la quitte jamais. Et puis je vais m'aventurer encore. Mais quand je m'aventure, je vais vite et je reviens vite à ma base. Ainsi que les improvisations autour d'une seule note peuvent durer des heures et des heures. Et comme c'est tout un cérémonial, c'est-à-dire que j'ai commencé lentement, et puis les écarts vont être d'abord très faibles, et puis ensuite de plus en plus grands, c'est comme si je prenais l'auditeur, je l'envoûte avec cette seule note, avec cette répétition. Il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, de l'envoûtement, de l'extase, et tout d'un coup, de l'hypnose. Et puis, petit à petit, je m'aventure sur la gamme, et je vais jouer sur les chromatismes, sur l'Orient, mais toujours, j'ai cette base, cette note qui jamais ne change, et encore une fois, qui est ma base, ma maison, ma signature, et ma définition. On se définit quand on a une note de musique et qu'on l'accorde avec la note de l'univers. Olé.
I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest go. But everybody's been telling me no. See that you're giving up. So tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. But I always have a thing for you.
I moved the earth, but nothing made you want me better. There is nothing I can do but steal the moon, and nothing made you want me better.
Cette émission était enregistrée grâce à notre almée Anne-Laure Cochet. Elle était produite par notre réalisatrice experte, la grande Kaina Fanny Boyon. Et la voix des anges, elle s'en sort bien, c'est toujours un ange, Elsa Denac. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.